19h30. Ici, à Paris, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et on parle ce soir du risque à court terme le plus grave auquel le monde est confronté, rien que ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le World Economic Forum évoquant le fléau de la désinformation. Une récente donnée pour bien se rendre compte de l'ampleur du phénomène aux États-Unis, le nombre de sites d'information locale dépasse désormais celui des médias authentiques, le nombre de sites d'information locale comportant des infox. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'entreprise NewsGuard. Dans ce contexte, nous posons ce soir la question, est-ce qu'on peut lutter contre la désinformation? Sommes-nous capables de lutter contre cette désinformation? Car les moyens pour y faire face ne cessent de se développer, mais la désinformation semble toujours avoir un coup d'avance. Comment expliquer une telle puissance? Quels intérêts ces infox servent-elles? Dans quel but? Et puis, comment continuer à apprendre? Eh bien, à déceler le vrai du faux. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités en studio. Gérald Olubovitch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de la newsletter Synth, qualifié sur votre site internet, oui. Je cite, de nouveaux médias qui vous aident à ouvrir les yeux sur la place de l'IA, donc l'intelligence artificielle, dans nos vies et nos imaginaires. Et vous êtes également enseignant à Sciences Po.
C'est ça.
Face à vous, Victor Chaumel, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur associé à l'Institut des systèmes complexes, qui est un laboratoire du CNRS. Et Sophie Malibeau, bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Que vous connaissez sur antenne de Radio France Internationale, journaliste, productrice de l'émission Les Dessous de l'Infox, évidemment chaque vendredi sur RFI. Alors, le saviez-vous, l'Ukraine n'est pas vraiment reconnue comme État par l'ONU. Les réfugiés ukrainiens reçoivent des voitures gratuites en Allemagne. Ou encore, les incendies qui, l'été dernier, ont ravagé Hawaï ont été déclenchés par une arme météorologique secrète testée par les forces armées américaines. Alors évidemment, toutes ces infos sont des infox. Vous êtes bien placé pour le savoir, Sophie Malibeau, puisque vous décryptez donc chaque semaine sur RFI ces infox. D'abord, pour nos auditeurs, on va essayer de cerner les enjeux globalement. Où trouve-t-on ce type d'infox et quelles sont les différentes formes d'infox? Parce que là, c'est une certaine forme d'infox, une certaine forme de désinformation.
Oui, il y a beaucoup de formes de... La désinformation, c'est tout un chapelet de pratiques. Et notamment, quand vous parlez des infox, c'est ce mélange info-intox, donc produite avec une intention malveillante, produite pour tromper. Les internautes, et quand vous me dites où les trouve-t-on, ben, principalement, je dirais, on verra, c'est sur les réseaux sociaux, mais quelquefois, elles débordent du cadre des réseaux sociaux et se retrouvent même quelquefois dans certains médias quand le travail journalistique n'est pas fait suffisamment bien. Elles se retrouvent aussi dans un endroit très problématique parce qu'il est un peu à l'abri des regards, c'est-à-dire dans les groupes privés sur WhatsApp ou dans d'autres chaînes Telegram, etc. Donc, c'est des endroits où, en fait, elles n'apparaissent que à ceux qui sont abonnés ou à ceux qui les font circuler. Donc, il n'y a pas une visibilité. Donc, il y a une très grande variation d'infox entre celles qui sont virales, qui débordent sur les grandes plateformes, d'autres qui restent confinées dans des endroits où elles ne sont pas moins nocives, mais elles sont moins visibles du grand public. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça, les infox. Il y a la propagande. Ça, c'est un phénomène qui a toujours existé. Mais cette notion d'infox, c'est quelque chose qui est dopé, je dirais, par la rapidité de circulation possible grâce au numérique, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, qui en fait était à l'origine quelque chose qui devait nous aider à tous pouvoir communiquer et mieux nous connaître à travers toute la planète. Et en fait, on se retrouve avec cette pollution que sont les infox et qui sont bien parfois bien difficiles à déceler.
Oui, puis qui sont d'ailleurs, les différentes formes d'infox que vous évoquez, les rendent d'autant plus difficiles à déceler. Il y a qui derrière? C'est majoritairement, évidemment, parce que les auteurs sont multiples, mais il y a qui majoritairement derrière ces infox?
Non, je peux pas décréter exactement, parce que déjà, la difficulté est d'attribuer une opération de désinformation, parce qu'il y a des infox qui sont créés de façon totalement artisanale par des individus qui, dans leur coin, ont un produit à vendre, ont besoin de se faire connaître, de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, et ils utilisent ce petit truc qui est de susciter de l'émotion et de faire des coups d'éclat parce que c'est toute une mécanique, c'est toute la logique économique des réseaux qui fait que quand on déclare quelque chose de spectaculaire, même si c'est c'est faux, ben, on peut engranger...
Ça, c'est finalement ce qui est, finalement, je dirais, la désinformation la moins grave, la moins nocive.
Bah non, je ne sais même pas
par
dire
rapport à
ce qu'il y a de moins
nocif. Orchestrée par les États.
Voilà. Alors ensuite, vous avez raison, il y a aussi des campagnes de désinformation qui, elles, sont très organisées, très coordonnées, avec des comptes inauthentiques, toute une logistique numérique avec ce qu'on appelle des bots. Et l'intervention humaine pour la fabrication. Alors là aussi, attribution toujours difficile. Parce que les États y ont une part, mais ils ont pour habitude, notamment la Russie, à cause de ce conflit en Ukraine et à cause de nombreux enjeux géopolitiques, a donc depuis un certain temps commencé à utiliser des proxys, enfin des intermédiaires, des agences qui ne font que ça, qui font du marketing internet en quelque sorte, et qui sont des petites entreprises de fabrication d'infox.
Mais il n'y a pas que d'opinion. La Russie. Concernant la Russie, c'est une guerre d'opinion au sens très large contre l'Occident, par exemple, puisque on va citer les exemples, par exemple, qui visent la capitale française, Paris, en vue des Jeux Olympiques. Il y a la volonté de Victor Chaumel, j'en viens à vous. Il y a la volonté de mener un message.
Tout à fait. Là, aujourd'hui, ce qu'on observe, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des grandes campagnes. Alors, vous parliez des campagnes coordonnées. On a même des campagnes publicitaires qui sont réalisées en ce moment même sur Facebook, donc sur Meta, qui vont cibler la France, l'Allemagne, mais aussi la Pologne et l'Italie, et qui vont toucher en ce moment même des millions de personnes. Meta a été attaqué au niveau de l'Union européenne pour justement essayer de faire stopper ces campagnes. Mais comme vous le disiez, on a tellement d'acteurs qui se recréent en permanence qu'en fait, on a toutes ces formes-là qui passent leur temps à évoluer. Et donc, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. On va avoir en permanence une évolution des méthodes de détection et aussi une évolution des méthodes de création.
Utilisé cette expression du chat et de la souris. Elle est utilisée, cette expression, par une personne qu'on connaît bien ici. Je pense Margarita Simonian, qui est donc la rédactrice en chef de RT News, qui a elle-même expliqué comment elle s'amusait beaucoup dans cette guerre de l'information à ouvrir des chaînes. Et puis quand la CIA, dit-elle, fait fermer ses chaînes, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, ça ne se fait pas forcément la CIA qui obtient la fermeture de ses chaînes, mais quand ces chaînes sont fermées, ben en fait, le temps que les adversaires en face mettent à dénoncer ces pratiques informationnelles, eh bien à ce moment-là, ils ont déjà recréé autre chose par ailleurs.
Et Victor Chaumel, est-ce que dans ce jeu du chat et de la souris, vous diriez que la désinformation, comme je disais, je posais la question finalement en début d'émission, elle a un coup d'avance sur les moyens de lutte?
Alors, on peut parfois avoir l'impression que la désinformation a un coup d'avance, notamment parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de créer du contenu que de le debunker, c'est-à-dire que d'expliquer pourquoi est-ce que c'est faux. C'est pour ça qu'en fait, très souvent, on a l'impression que les fact-checkers, c'est les journalistes, quand ils vont essayer de justement faire ce travail de debunking, en fait, ont toujours un train de retard. Une solution, justement, pour éviter ça, c'est plutôt de ne pas regarder l'information en elle-même, mais de mettre en avant les mécanismes de la désinformation. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de campagne de pub. Et bien, au lieu de regarder information par information, ce que vont faire les journalistes de plus en plus, c'est de regarder la campagne en elle-même. Et en reprenant la campagne, en regardant les médias, et bien, en fait, on peut mettre en avant des systèmes qui sont génériques. Et en fait, on se rend compte que les méthodes utilisées par certains pays sont toujours les mêmes. Et c'est grâce à ça qu'on peut regagner un train d'avance et qu'on peut justement lutter contre la désinformation.
Gérald Holubovitch, pour poursuivre sur ce constat concernant le niveau de désinformation aujourd'hui, comment vous l'évalueriez? Est-ce qu'il est effectivement de plus en plus important?
Alors, je pense qu'il y a effectivement deux versants à la médaille. On parle beaucoup de désinformation, mais c'est probablement en fait un problème plus d'information en réalité. Ah. On a aujourd'hui, hier, le rapport, le Digital News Report de l'Institut Reuters qui a été publié et qui fait un état en fait des lieux de l'information dans le monde. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose de franco-français ou européen, c'est vraiment à l'échelle internationale. Et ce qu'on constate par exemple, c'est qu'on a aux alentours d'une trentaine, quarantaine de pourcents de gens dans le monde qui se retirent littéralement de l'information, qui ne consultent plus une source d'information pour tout un tas de raisons.
C'est pas l'information qui recule, ce sont les gens qui s'en méfient de plus en plus.
C'est les gens
ça, c'est le C'est le danger des infox.
C'est pas qu'ils s'en méfient au sens strict du terme, c'est que en fait l'information ne répond plus à leurs besoins. Elle est trop complexe parfois, elle est polarisée également, elle est pas forcément toujours très nuancée. Et c'est ce qui ressort en fait dans le rapport, c'est que les gens réagissent à une proposition et cette proposition là n'est plus satisfaisante aujourd'hui, ne correspond plus à leur mode de consommation. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation, bien évidemment, où quand on combine ce retrait-là plus la méfiance de ceux qui écoutent les informations encore, puisqu'il y a encore des gens qui l'écoutent, bien heureusement, on se retrouve avec un large pourcentage de la population qui est en antagonisme avec l'information, mais pas à cause de la désinformation. Tout simplement, juste parce que l'objet information devient un problème. Et on voit aussi que, par exemple, aux États-Unis, ça s'accompagne aussi d'une forme d'instrumentalisation financière en fait, des médias, où en fait, on a un certain nombre, par exemple, de fonds de pension qui investissent dans les médias locaux et qui les démantèlent, qui les désossent jusqu'au bout pour tirer le maximum de profit de ces désossements. Mais en même temps, ça tue le média local. Et le média local, aujourd'hui, c'est un relais d'opinion, un relais démocratique. Et quand il n'y a plus cette confiance-là au média local parce qu'il a disparu, on se tourne vers, effectivement, de la désinformation.
Et ça en vient à cette situation que j'évoquais, les sites d'information locales aux États-Unis comportant des infox qui sont plus nombreux que les médias authentiques. Quel lien vous faites entre les infox et la montée des populismes? Est-ce que la désinformation, c'est un outil pour les populistes?
Alors, c'est certainement un outil, hein, et puis en plus, on l'a bien vu, que ce soit du côté du Rassemblement National comme de Reconquête, il y a eu des formations spécifiques pour utiliser à la fois les réseaux sociaux de façon adéquate pour pouvoir véhiculer donc un certain nombre de thèses et de théories politiques, et puis en même temps aussi des outils d'IA pour justement alimenter tout ça. Donc il y a effectivement ce phénomène qui n'est pas réservé uniquement à la France, mais qui est à peu près international, hein, aux États-Unis notamment également, il y a eu beaucoup d'usages de ces choses-là. Donc effectivement, la désinformation polarise, mais elle polarise parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui amplifient ce mouvement-là, qui en fait, la désinformation pourrait, si elle restait dans le bar du PMU du coin, ça serait OK. Mais le problème, c'est que le bar du PMU, maintenant, il touche des milliards de personnes, donc du coup, c'est un peu plus problématique.
Je vois que les mains se lèvent. Sophie Malibu,
juste en parlant de populisme, en fait, ce qui se passe, c'est que les populistes exploitent aussi cette veine qui est la veine de l'information dite alternative, comme s'il y avait un monde à côté, un monde autre qui
selon eux, n'est pas de la désinformation.
Non, en fait, c'est un monde à part. C'est la porte-parole de Trump qui avait commencé à sortir cette expression quand Trump ne voulait pas admettre qu'en fait, le parvis devant lui n'était pas aussi bondé qu'il l'affirmait. Et elle disait que si en fait, elle, c'était son information alternative, il fallait juste qu'on accepte ça, même si en fait, ça n'a pas de rapport avec la réalité, en fait.
Mais Sophie, là, vous touchez un point important. Elle commence où, la désinformation? C'est finalement, l'information est subjective.
Ah ben non.
Où commence la désinformation?
L'information...
À quel moment on estime que là, on est face à une infox?
Non, mais c'est là aussi où, justement, les régimes populistes aussi essayent de tout relativiser. En réalité, il y a des faits, et même dans le domaine de la santé et des sciences, il y a quand même une méthodologie des scientifiques. Et on a beaucoup vu ça pendant la crise sanitaire du Covid, où tout le monde s'improvisait spécialiste de la question, et même un prix Nobel, quand il s'exprime en dehors de sa spécialité, il n'est pas forcément au fait de ceux qui sont capables de donner à un instant T l'état des sciences, l'état de la recherche sur un point bien précis. Donc en fait, il y a les faits, et c'est ça qui nous intéresse, les faits d'abord, même si évidemment les faits ensuite ils évoluent. Le journalisme, on dit toujours c'est où, quand, comment. Enfin, il y a vraiment un certain nombre de critères, et ça c'est totalement intangible. Alors quelquefois on se trompe, mais on ne le fait pas exprès. Quelquefois, on ne sait pas. Et pour ne pas le dire, ben, on en dit peut-être un peu trop. Donc, en fait, effectivement, la désinformation, il y a de la désinformation sans doute un petit peu partout qui n'est pas volontaire. Mmh. Mais bon, ensuite, il y a des gens qui ne veulent pas du tout se coltiner avec la réalité.
Mais quand je parlais de subjectivité de l'information, je voulais dire que la marge vers l'interprétation de l'information est toujours très proche.
Oui, mais alors ensuite, il y a le débat d'opinion, mais c'est différent. Mmh. Il y a quand même des faits...
Justement, pour revenir là-dessus, une démocratie, c'est justement un endroit dans lequel on a une base de faits qui est commune et on a un débat d'opinion sur cette base de faits. Ce qui est important, c'est justement d'arriver à maintenir cette base de faits qui est commune. Et justement, pour rebondir là-dessus, c'est ce moment où on a un délitement du tissu social que la désinformation apparaît. Et on faisait le lien tout à l'heure entre populisme et médias locaux. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, qu'aux États-Unis, c'est justement dans ces endroits-là où les médias locaux avaient disparu que Trump faisait ses meilleurs scores. Parce que justement, on avait une perte d'accès à cette information. Donc globalement, aujourd'hui, le but, c'est d'arriver à maintenir ce lien-là, à maintenir cette confiance. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu aussi dans le domaine, par exemple, climatique. On sait qu'on a eu beaucoup de désinformation et qu'en fait, ce qui est important dans ces cas-là, c'est que cette désinformation, on met en avant les mécanismes, parce qu'elle est parfois orchestrée. En fait, c'est-à-dire qu'on va avoir des campagnes de désinformation. Et donc, le but, c'est d'éviter que des gens, entre guillemets, partent à la dérive, que des gens, justement, ne fassent plus corps et qu'ils s'emparent à nouveau des sujets, qu'ils se réemparent du débat public pour justement arriver à parler, par exemple, que ce soit de Covid ou autre.
Pouvons-nous lutter contre la désinformation ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, mes trois invités, Victor Chaumel, que l'on entendait à l'instant, chercheur associé à l'Institut des systèmes complexes, qui est un laboratoire du CNRS, Gérald Holubovitch, fondateur de la newsletter Synth, qualifié de nouveau média qui aide à ouvrir les yeux sur la place de l'IA dans nos vies et nos imaginaires, également enseignant à Sciences Po, et Sophie Malibaud, journaliste productrice de l'émission chaque vendredi Les Dessous de l'Infox. Sur RFI, on a évoqué ce fléau, l'étendue finalement de la désinformation aujourd'hui. J'aimerais qu'on évoque les moyens de lutte. On se posait la question, est-ce qu'il y a toujours un coup d'avance? Vous ne disiez pas non, Victor Chaumel, sur la désinformation, sur les moyens de lutte. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des moyens qui sont mis en place par les autorités publiques? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de l'enjeu, selon vous, Victor Chaumel?
Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays et d'institutions qui ont totalement pris en compte la menace informationnelle. Au niveau européen, on a passé le règlement sur les services numériques, donc le DSA, Digital Services Act, qui permet d'encadrer justement la désinformation.
Concrètement, il prévoit quoi
Concrètement, en fait, il prévoit tout simplement une responsabilisation des plateformes.
Concrètement,
c'est-à-dire que les plateformes seront responsables de la désinformation. Et lorsqu'on dénonce de la désinformation sur les plateformes, je donnais l'exemple tout à l'heure de Facebook et des publicités pro-russes qui arrivaient sur Facebook, et bien Facebook est responsable et elle peut être condamnée. Mmh. Par exemple, Facebook
a été... Elle peut être condamnée ou elle doit supprimer ce contenu?
Alors, si elle doit supprimer le contenu, d'abord, et si elle ne le fait pas dans un temps raisonnable, et bien dans ce cas-là, elle peut être condamnée. Ce qu'il faut voir dans ce cas-là, c'est que chaque pays va avoir une réponse qui est adaptée. La France, par exemple, a décidé de créer un service qui s'appelle Viginum, qui est là pour lutter contre les ingérences étrangères uniquement, c'est-à-dire qu'il va regarder sur les réseaux sociaux ce qu'il s'y passe, et donc pouvoir dénoncer ce qu'il a déjà fait, les ingérences étrangères, en l'occurrence, par exemple, quand elles venaient de la Russie, dans les derniers cas.
Il y a deux vitesses entre les États-Unis et l'Europe, Gérald Holubovitch, dans cette chasse à la désinformation, ou ailleurs dans le monde, d'ailleurs.
Non, je pense qu'il y a une prise de conscience globale que c'est effectivement un problème. Après, au niveau légal pur et dur, là, oui, effectivement, on n'est quand même pas du tout sur le même bateau. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe est assez proactive au niveau de la réglementation.
C'est à la pointe, ce DSA ?
Alors, la DSA est assez à la pointe, oui, en effet. Alors, on peut regretter, par contre, le recul de l'AI Act, donc, qui encadre, lui, pour le coup, l'intelligence artificielle, et donc qui s'est focalisé plutôt sur les risques existentiels et a mis de côté un peu, le poids que pouvait avoir la désinformation, enfin, les utilisations dans la désinformation. Enfin, globalement, c'est quand même assez, ça encadre quand même pas mal de choses, et c'est quand même plutôt un bon pas on va dire, vers un pas dans la bonne direction. Et c'est vrai que les États-Unis, eux, par contre, ont des problèmes. Ils ont, enfin, le seul geste qui a été mené, c'est donc l'executive order de Joe Biden, qui n'a de valeur que de présidentielle, et donc qui n'est pas démocratique, puisqu'il n'a pas été mis en place par la Chambre des représentants ni le Sénat.
Et pourquoi Washington n'en fait pas plus dans la lutte contre la désinformation ? Washington s'accoutume à cela.
C'est sous couvert de liberté d'expression. Sous couvert de liberté d'expression, parce que c'est dans la Constitution, et c'est comme pour les armes à feu d'ailleurs, de toute façon. C'est le même problème, c'est le prétexte.
Où s'arrête la liberté d'expression.
Voilà, c'est ça, on n'a pas la même conception en Europe et aux États-Unis.
Oui, et puis il y a aussi des considérations économiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer à faire peser en fait, un certain nombre de circonstances, d'obligations sur les plateformes qui se réfugient depuis des années derrière l'article 230 en disant que ce sont des plateformes neutres et qui ne sont pas responsables en fait, des contenus qui sont produits, évidemment, on va faire peser un poids financier également, de régulation, ajouter des modérateurs, etc. Et donc, c'est problématique pour le développement de ces plateformes, puisqu'il faut l'étendre au monde entier, et ça concerne quand même beaucoup de monde.
C'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'on peut imaginer une harmonisation mondiale, puisque la désinformation, elle est mondiale. Le fléau, encore une fois, je le disais, c'est le risque à court terme le plus grave auquel le monde est confronté, selon le World Economic Forum.
On peut considérer que l'effet Bruxelles joue à plein, et qu'à un moment donné, il y ait un peu comme ça s'est passé avec la RGPD, qui commence donc sur la protection des données personnelles, où en fait, ça commence un peu à essaimer à droite à gauche, où on voit un certain nombre de législations un peu sur le même cadre arriver. On peut se dire que le DSA, par exemple, ou les Act fassent et la même influence.
Ça peut créer un précédent. Sophie Malibaud.
Mais pour l'instant, Twitter n'en a que faire.
Ah bien sûr.
Donc en fait,
Elon Musk n'en a que faire.
Les géants en général. Je vais juste citer YouTube. Ça, c'est une organisation espagnole de fact-checking qui a indiqué que YouTube n'avait pris aucune mesure tangible à l'encontre de 75% des contenus relayant de fausses informations, 70% concernant X. Ça, c'est à propos de la lutte contre la désinformation en amont des dernières élections européennes.
Les amendes sont trop faibles en fait. Ouais. En réalité, il n'y a pas d'obligation qui pèse énormément. Enfin, je crois que c'est Google qui a été condamné dans le cadre des droits voisins, qui n'a rien à voir, mais ils ont pris 250 millions d'euros d'amende. C'est je ne sais pas combien de secondes de chiffre d'affaires de chez Google. Enfin, à un moment donné,
La sanction suprême, elle est problématique parce que s'il s'agit d'interdire Twitter en Europe, on sera bien avancé. En fait, ça risque quand même poser problème, notamment au regard des standards démocratiques aussi de liberté d'expression.
Bien sûr, mais il y a ce risque pour lutter contre la désinformation qu'il faille aller jusqu'à l'interdiction des grandes plateformes numériques, parce que finalement...
C'est la menace brandie par le commissaire européen si Elon Musk ne respecte pas finalement les directives européennes.
En fait, je pense que
Chomel.
On peut aussi voir l'étendue de la menace. On a entendu plusieurs fois que la désinformation est un problème très grave. Effectivement, mais en fait, c'est un problème qui est aussi très centralisé et très confiné à un petit nombre de personnes qui, pour le coup, sont très, très actives sur les réseaux sociaux. Et en fait, par exemple, sur les dernières élections, en 2020, aux États-Unis, on a seulement 1% des comptes qui partagent 80% des fake news sur Twitter. C'était déjà la même chose en 2016. Ouais. Et en fait, si tout simplement on limitait, par exemple, à 50 le nombre de tweets par jour de ces 2000 comptes, parce qu'on parle que de 2000 personnes ici, eh ben on pourrait déjà enlever une très très grande partie de la désinformation. Donc en fait, aujourd'hui, c'est plutôt un manque de volonté qu'un manque de moyens. D'accord. C'est pas forcément très compliqué de bloquer avec des méthodes assez simples, justement, l'accès à ces réseaux.
Et vous arriveriez à dire pourquoi il n'y a pas plus de volonté politique ?
Aujourd'hui, c'est compliqué. Par exemple, on a vu la Chambre des représentants, notamment grâce à sa commission d'enquête, attaquer NewsGuard dernièrement aux États-Unis. Pourquoi ? Au nom du premier amendement. En disant, vous avez reçu de l'argent et vous êtes en train de noter des sites. Alors, c'est à l'initiative des Républicains aux États-Unis. Ça pose problème. Et donc, on voit que même des entités de fact-checking qui, justement, travaillent à avoir un meilleur écosystème, peuvent être attaquées au nom du premier amendement. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, notamment aux États-Unis, de mettre en place ce type de mesure.
Il y a cette culture de la liberté d'expression à tout prix. On n'a pas parlé.
C'est quand même aussi un positionnement politique extrêmement fort. Mmh, c'est les Républicains qui attaquent parce que principalement aussi ce sont des messages qui viennent de leur camp et qui les aident aussi à faire prospérer leur base politique.
Et l'IA, on n'en a pas beaucoup parlé. Évidemment, elles sont utilisées, ces IA, pour faire proliférer la désinformation. Mais vous qui êtes spécialiste, Gérald Holubovitch, ça annonce quoi l'explosion de l'IA à venir, une explosion encore de la désinformation qui est déjà très haute aujourd'hui, un fléau mondial qui va proliférer, une arme de destruction massive.
Non, alors moi j'ai tendance à calmer le jeu un peu sur cette affaire-là. D'abord, c'est pas parce qu'on est exposé à une fausse information qu'on va forcément y croire. Hein. Déjà pour commencer, il faut le rappeler parce qu'effectivement ça peut créer un peu un vent de panique. Donc tout le monde, tous ceux qui sont exposés à ça ne sont pas au point de vue d'un point de vue de l'IA. En fait, c'est moins un problème, encore une fois, de prolifération, même si ça reste un problème, qu'un problème en fait de modèle économique. C'est-à-dire qu'en fait, là, on se rend compte d'une situation extrêmement périlleuse pour la presse de façon internationale, où en fait, à la fois le nouveau modèle en fait de recherche sur Google qui est en train d'être déployé dans 140 pays et qui à la fin de l'année sera déployé sur la totalité de la planète, enfin, fait appel en fait à des formes de résumés de l'information qui proviennent de différentes sources. Donc en gros, l'utilisateur va arriver sur Google, va taper une requête, va obtenir un certain nombre d'infos, mais n'ira pas forcément faire l'effort de lire le papier entièrement sur le site d'information en question. Ce qui fait que ça va diminuer les trafics et donc diminuer les revenus publicitaires ou les opportunités de transformer ça en abonnement. Et donc drainer le peu de force encore qu'il y avait dans la presse internationale vers d'autres acteurs. Et donc ça, c'est problématique parce qu'en fait, les seuls qui sont encore en capacité et en volonté de lutter contre la désinformation se font aspirer, on va dire, leur influx vital par d'autres acteurs qui eux-mêmes propagent de fausses infos. Et donc il y a un déséquilibre de force.
L'IA, ça permet de sophistiquer aussi un peu plus la
désinformation. Alors oui, bien sûr.
Est-ce que ça permet aussi, et c'est la suite de ma question, de mieux débusquer aussi, parce que l'IA, elle va dans les deux sens. Elle valorise, dans le mauvais sens du terme, la désinformation, mais est-ce qu'elle permet aussi, elle valorise aussi les moyens de lutte?
Non, mais alors là, je vais passer la main à mon collègue, ouais. mais en fait, non, malheureusement.
Victor Chaumel.
Aujourd'hui, ce que permet de faire l'IA, c'est tout simplement d'avoir une création de contenu beaucoup plus facile, mais elle ne facilite ni la distribution des contenus, ni leur détection. En fait, on va pouvoir créer des contenus de bien meilleure qualité, des contenus réalistes, avec un coût qui est bien moindre. Et donc ça va permettre deux choses. Ça va permettre d'avoir beaucoup plus de contenus de bien meilleure qualité, et donc in fine, de les personnaliser. Mmh. Mais ce qu'on n'observe pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, grâce à l'IA, on n'est pas plus capable de détecter certains contenus. D'accord. On peut penser ici, par exemple, aux deepfakes. Les deepfakes qui sont donc soit ces images, ces audios, ou ces vidéos générées artificiellement. Et en fait, aujourd'hui, on en voit un peu plus, mais on n'a pas non plus de raz-de-marée. Là, on a beaucoup plus de contenu créé, c'est sur les faux sites de news. Au NewsGuard, par exemple, on a cité des milliers, ouais. On a quasiment un millier aujourd'hui de sites de news. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on va exploser, sans forcément avoir un impact réel aujourd'hui, que ce soit sur les élections, hormis quelques exemples, notamment pour les deepfakes audio.
Donc c'est davantage, je dirais, une menace concernant la désinformation, l'IA, qu'une protection. J'ai une dernière question rapide. La responsabilité individuelle, elle est essentielle face à la désinformation. Comment continuer à apprendre à déceler le vrai du faux, avoir ce recul-là?
Aujourd'hui, sur ces questions-là, en fait, on se rend compte qu'on a déjà une évolution des comportements. On en a parlé tout à l'heure, on a le fait que les gens se retirent de l'information. En fait, aujourd'hui, l'idée qu'un contenu, quand on le lit, soit écrit par une personne et soit réel, en fait, va de soi. Probablement, on va juste inverser cette tendance-là. Et a priori, quand on lira des contenus en ligne, ils ne seront pas forcément écrits par une personne, ils ne seront pas forcément issus d'une vraie photo, d'une vraie vidéo ou d'un vrai audio.
La lutte contre la désinformation est complexe et pas gagnée, si je devais répondre à cette question, pour reprendre un petit peu ce que vous nous avez dit, vous trois, ce soir. Merci beaucoup, Victor Chaumel, chercheur associé à l'Institut des systèmes complexes, Gérald Holubovitch, fondateur de la newsletter Sint, enseignant à Sciences Po, et merci Sophie Malibaud, journaliste productrice de l'émission Les Dessous de l'Infox. Allez, 19h, bientôt 59, dans une minute, le journal de 20h. Puis, mardi politique, deux invités ce soir, Fabrice Leggeri, député européen du Rassemblement national, puis Danielle Obono, députée sortante de la France Insoumise de Paris, candidate du nouveau Front Populaire. Juste après, ce sera l'heure d'Afrique Soir, la première édition. Bonsoir Alexis Guilleux.
Bonsoir Romain Ozouy.
Au programme ce soir.
Eh bien, la situation au Burkina Faso, qui est à la une, une semaine après l'attaque djihadiste de Mansilla. Toujours pas de déclaration officielle des autorités de transition. Et c'est une information RFI, des soldats maliens et des mercenaires russes de Wagner sont arrivés à Ouagadougou pour sécuriser le capitaine Traoré. À la une également, nouvelle journée d'audience à Kinshasa en RDC. Dans le procès des attaques du 19 mai dernier, 51 accusés, le parquet a répondu aux différentes objections. Et puis notre dossier du jour, avec une nouveauté pour le continent, l'Afrique émet désormais plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en absorbe.
Et ça, c'est effectivement une information importante. Merci beaucoup Alexis Guillot. On vous retrouve dans 30 minutes pour la première édition d'Afrique Soir. Dans 30 secondes, c'est le journal de 20h.